Potlatch 90.1 FM, de la bande FM à la bande organisée. De la bande organisée à la bande FM.
Lorsqu'on veut agir politiquement dans ce monde, on se retrouve souvent face à un problème de légitimité. Entre le poids de la politique classique, avec ses institutions et ses représentants, et le poids des grandes théories révolutionnaires, nous manquons d'espace, de souffle, pour penser et agir à partir de nos antagonismes politiques. Queeriser les luttes, ce serait cela. Ouvrir un appel d'air situé, comprendre notre époque en traversant ces catégories, et mettre à mal la certitude de ce qui sera le nouveau grand sujet révolutionnaire. Queeriser les luttes, Potlatch numéro 22. Émission de rentrée, ça commence maintenant.
De mes mains refusant tous ses dons. La nuit dansera seule au bord de notre tombe, une danse arrachée aux objets les plus pauvres. Le pas du sel, du blé, la pavane du plâtre et des cristaux de soufre. Accroupie dans la mousse, quoi ? Le malheur me tue et me parle d'un pâtre. Laisse-moi me vêtir pour gagner tes misères, ces reposoirs de sel, des marches souterraines, les bosquets de sapins, puissance des ténèbres, et ton œil. Avoir, dans les minutes entr'ouvertes, immobile, un galop s'échapper sous tes pieds, à remettre à tes doigts mes armes dangereuses, je te reconnais, juste et sainte dans le sang, beau jeune homme, au poignet de qui sent rose teinte. Cette faucille est endormie dans l'herbe noire, chantant la mort, les morts de la victoire.
Merci Minouche. C'était un passage de Pompe funèbre de Jean Genet. On te retrouve à la fin de l'émission, comme d'habitude, pour conclure érotiquement notre heure passée ensemble. Le premier sujet de cette émission porte sur deux interventions de la philosophe Maria Kakodjani, intitulées « Queeriser les luttes des classes, conflits, antagonismes, différences ». L'une a été organisée par le site La Vie Manifeste et l'autre dans le cadre du colloque Penser l'émancipation 2017 à Paris 8. Vous y entendrez aussi les voix des membres du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire et une autre des Gouines Rouges, deux groupes des années 70 en France. C'est parti.
Si un homosexuel homme éprouve le désir d'être baisé par un autre homosexuel homme, ça ne veut pas dire du tout qu'il se considère pour ça comme inférieur. C'est vraiment coller le langage social sur le désir, considérer que le désir, ça s'exprime toujours sous les formes des rapports de force qu'a institué la bourgeoisie et tout ça. C'est pas du tout la même chose. Les rôles sexuels, si tu veux, tels que tu peux les vivre quand tu couches ou quand tu aimes quelqu'un ou quand tu aimes plusieurs personnes, et les rôles sociaux qu'on a imposés à la sexualité. C'est-à-dire le fait qu'on désire soit être baisé, soit successivement les deux, soit les deux en même temps, soit tout ça, ça n'a rien à voir avec le fait de se considérer comme inférieur ou supérieur. Ça n'a à voir que dans la mentalité bourgeoise. Alors, je vois pas du tout comment ça pourrait être générateur de plaisir, l'idée de se dire qu'on est inférieur en particulier. Selon moi, ça peut être générateur que de gêne ou de frigidité. Et de même, l'idée d'être supérieur, c'est vraiment le sentiment bourgeois le plus réactionnaire qui d'ailleurs te cache tous les plaisirs que tu peux... Parce que l'idée de supériorité était liée au rôle de mâle. Alors en particulier pour les hommes, il est effectif que la plupart des hommes ne sont pas homosexuels, précisément parce qu'ils auraient l'impression qu'ils remettraient en question leur supériorité de mâle, c'est-à-dire s'ils se faisaient baiser. Et bien précisément, ce que nous on essaie de montrer, ce qu'on montre pratiquement, c'est qu'on éprouve un très grand plaisir aussi bien à se faire baiser qu'à baiser, que ça n'est pas que, qu'on veut détruire les rôles en tant qu'ils entraînent des relations de pouvoir, que pour détruire ces relations de pouvoir, il va falloir qu'on commence par introduire des relations de pouvoir avec tous les gens qui ont le pouvoir pour l'instant, c'est-à-dire avec l'ensemble de ce qu'on appelle, nous, les hétéros, dont un certain nombre d'entre eux sont des hétéros flics, au sens où ils veulent imposer leur morale à tout le monde. Mais je pense pas du tout que les relations sexuelles soient nécessairement des relations de pouvoir, les relations d'amour soient nécessairement des relations de pouvoir et d'oppression, ça me paraît vraiment une théorie complètement réactionnaire.
La lutte des classes. Je voudrais juste dire un mot sur ce verbe qui n'existe pas. Avant de vous essayer de vous présenter ce que je vais essayer de faire. Alors, Monique Dixot, une grande lectrice de Platon, faisait remarquer de manière très juste que chez Platon, dans les dialogues, malgré ce qu'on peut penser, il n'y a pas de dialectique. Le mot dialectique n'apparaît pas. Ce qui apparaît tout le temps, par contre, c'est son verbe, dialectiser. Sans arrêt, Platon, il parle de dialectiser. Il faut dialectiser ceci, etc. Donc, je voudrais aussi partir de queeriser. Déjà pour marquer que c'est en rien quelque chose qui pourrait faire penser à une politique queer. Ou à quelque chose comme ça. Queeriser, ça serait plutôt quelque chose dans sa forme verbale qui fait penser à queer, ce qui est oblique, ce qui est tordu ou ce qui s'inscrit en diagonale. Quelque chose qui s'inscrit de manière diagonale, ça serait quelque chose qui essaye d'éviter l'alternative ou le choix, ou bien la lutte des classes avec un grand L, comme essence de tous les conflits, la lutte des classes, ce qu'on pourrait voir comme une fonction régulatrice de l'émancipation qui a pendant longtemps été hégémonique et qui a été, pour le dire rapidement, adossée dans un modèle un peu vertical. Donc, ou bien la lutte des classes avec un grand L, ou bien des luttes sans classe, sans genre, ni espèce, dans une fragmentation infinie, qui donne, ce qui me pose problème un petit peu moi aujourd'hui, quelque chose que je pourrais nommer des conflits sans conflit, ou un petit peu du café sans caféine, vu qu'on a retiré l'essence. Des conflits sans conflit, pas parce qu'il n'y a pas des luttes, pas parce qu'il n'y a pas des gens qui se font tabasser, des gens qui se font tuer, des corps marqués par la cruauté, tout ça. Je nie en rien tout ça. Mais des conflits sans conflit dans la mesure où, manifestement, depuis au moins 2008-2011 ou quelque chose comme ça, statistiquement, on n'a jamais eu autant de gens dans les rues, on n'a jamais eu autant d'explosions, créations des expériences collectives, et pourtant, ils n'ont pas reculé d'une miette. Donc, des conflits merveilleux, absolument inventifs, libérés des vieux trucs qui nous emprisonnaient, mais des conflits sans conflit, parce que on est en train de perdre sans arrêt.
On était quand même des marginaux, c'est-à-dire que la marginalité nous rendait libres.
On en parlait, mieux c'était. Les gens vivaient dans le doute au milieu des autres qu'ils étaient peut-être homosexuels. Ils se déclaraient pas. Le scandale à cette époque, c'était de le revendiquer. C'est ça le scandale.
What other kind of affinity brings these girls together in a famous Paris nightclub? What are the deep-rooted emotions that remove them completely from the company of men? Yet at the same time cause them to emulate the masculine appearance with such pathetic results. Even though these emotions are covered up by a blasé attitude, one is still aware of their underlying sadness.
C'était pas tant de l'être, on savait que ça existait, on savait qu'il y avait des homosexuels. Le scandaleux, c'était que l'homosexuel dise « je suis homosexuel ». Ça, c'était impensable, c'était très réprimé, ça. Si je prenais un pot, c'est arrivé très souvent, avec une collègue qui parlait de ses amours hétéros, de ses enfants. Moi, je me disais, je ne vais pas me taire. J'ai une vie. C'est suspect de pas parler de ma vie. Je me souviens très bien de m'être dit comment faire, parce que ce n'était pas facile quand même. Et je prenais mon courage à deux mains et je disais, moi, je n'ai pas le même vécu. Moi, je vis avec une femme ou j'ai une amie. Et les gens étaient abasourdis, ils s'en doutaient pas, je le portais pas sur moi spécialement. J'ai étonné beaucoup de gens comme ça, ah bon? Et ça me plaisait ça, parce que je disais, eh ben oui, tu vois, on se ressemble, mais moi c'est pas un garçon.
Je veux commencer par les propos que j'ai entendus l'autre jour. Il y a une vidéo que vous pouvez trouver sur Internet sur les soirées que la revue Période avait organisées. C'est sur l'épisode 2, si vous voulez retrouver. C'est des propos d'Olivier Neveu. Et à ce moment-là, il parle de la programmation au théâtre. Il a commencé à s'intéresser à comment les théâtres programment leurs pièces, etc. Et il y a une question qui s'était posée à lui. Il dit, je cite, dans cette conférence, enfin, cette soirée, qu'il essayait de comprendre pourquoi des choses qui étaient possiblement contradictoires avec l'ordre des choses avaient quand même la première place dans un certain type de programmation. Et ce qu'il appelle, et d'ailleurs il dit, c'est pas moi qui invente les concepts, etc., etc. Peu importe, là je vais pas faire les généalogies, si vous voulez, vous pouvez aller retrouver, il donne, mais en tout cas, ce qu'il appelle la censure par excès, qu'on peut séparer de la censure par exclusion,
censure. Vous dites quelque chose qui nous perturbe, perturbe l'ordre, bon, vous exclut. Là, il parle d'une censure par excès. Et comment elle fonctionne? C'est que la neutralisation s'est faite par une offre excessive. C'est l'autre, l'offre excessive qui se fait qu'au bout d'un moment, comme dans une grille de télé, où vous avez la case transgressive, la case adressée à telle population. Et en fait, la censure n'est plus parce qu'on ne va pas faire un film queer, alors qu'avant ils n'avaient aucune place, c'est qu'on va tout caser dans des cases et on va avoir une surenchère. Et c'est comme ça qu'on va neutraliser les choses. Je me suis dit que cette censure par excès pourrait être ce qui me faisait peur dans un colloque qui s'appelle « Penser l'émancipation ». Et c'est qui, potentiellement, je reprends ces mots, potentiellement est contradictoire avec l'ordre des choses, a quand même la première place dans un certain type de programmation. Comment penser l'émancipation si on n'émancipe pas la pensée? Et émanciper la pensée, pour moi, ça renvoie d'abord, d'une certaine manière, à émanciper la pensée de ces multiples cages dans lesquelles on range les différents types, formes, objets. Ce qu'en grec, on appelle une taxinomie. Taxinomie, nomos, loi, taxis, ordre. Une taxinomie, c'est la loi de l'ordre. Je disais tout à l'heure, quelque chose de potentiellement contradictoire avec l'ordre des choses. On y est, la taxinomie. Qu'est-ce qui peut être possiblement perturbateur d'une taxinomie, de la loi de comment on va ranger? Et je pense qu'en lisant un programme d'un colloque, il y a une certaine taxinomie. On va ranger les queers et les féministes comme ça, on va ranger les... Il y a des tiroirs dans une commode où on range. Tout est rangé. Comment on va perturber la commode? Il me semble que cette idée de taxinomie renvoie à un rapport très difficile, très, très compliqué, et qui est l'objet, je pense, de réflexions actuelles. Et c'est là-dedans que je vais un petit peu commencer à croiser ce que tu disais tout à l'heure, Sophie. Je t'appelle Sophie. Hein. C'est le rapport entre la partie et le tout. Alors, le rapport entre la partie et le tout, dans la taxinomie classique aristotélicienne, il y a une logique très simple, c'est qu'il y a une partie qui ne compte pas comme les autres parties, il y a une partie qui fait tout. C'est ça la taxinomie classique. Par exemple, Aristote va nous dire, l'être se dit de plusieurs manières, et l'essence c'est une catégorie de l'être. Oui, mais l'essence c'est pas juste une catégorie, mon gars. Donc c'est une partie, vous avez le tout, des parties, mais alors il y a une partie qui compte pour tout. Le signifiant homme, par excellence, c'est à la fois une partie, mais il compte pour le tout. Ça, c'est la taxinomie classique, et on peut dire d'une certaine manière que pendant longtemps, ce qu'on a appelé la lutte des classes, c'était une taxinomie classique, vu qu'on identifiait à l'intérieur de la multitude des luttes, une lutte qui était à la fois la partie et le tout, et qui était censé ranger tous les autres, faire la taxinomie des autres. C'est-à-dire, vous étiez plus ou moins radical, si vous étiez plus ou moins proche à la lutte des classes. Si vous étiez trop un peu dans le culturel et vous intéressez juste si vous portez une jupe ou pas, ça, c'était pas très, très sérieux à l'époque. Donc, vous êtes rangé en bas de la commode. Vous voyez, il y avait un ordre de la commode, bon, avec l'essence qui était la lutte des classes. Donc, vous voyez, il y avait un rapport entre la partie et le tout très... très, très simple et qui fonctionne, c'est ranger la commode. Un petit peu en tournant des années 60-70, il y a, me semble-t-il, un mouvement multiple, à la fois dans les luttes et dans les théories, de défaire cette taxonomie, ce qu'on appelait les luttes des classes essentialistes. Et il s'agissait d'émanciper les autres luttes, de leur subordination à une forme, un antagonisme fondamental, une manière de ranger dans la commode, qui, on peut le dire, était de nature assez verticale. Vous qui a un rangement, la taxinomie, elle range selon que vous êtes plus ou moins proche à l'essence, la lutte. Donc à partir de ces années-là, et je pense que nous sommes contemporains de ça, de ce double mouvement, de la mise en crise de cette taxinomie, la lutte des classes comme essence, d'une part, mais d'autre part, de ce que j'appellerais une nouvelle taxinomie de la domination, qui n'est plus ce même type de rangement de la commode, mais quelque chose qui ressemble plus à une multiplication des parties sans lien, et cette censure par l'excès, ou ce que tu disais tout à l'heure, éparpillé. On est éparpillé. Parce qu'avant, c'était simple. Pour ne pas être éparpillé, on avait un critère. On avait l'essence, on rangeait. Bon, on défait le critère de l'essence, éparpillé. Comment on va converger? Comment on va... Et c'est... Il y a d'un côté, donc, la taxinomie verticale, où on vous place sur la commode de la place la plus essentielle à la plus superficielle, de la plus économique à la plus culturelle, etc., etc., de la plus ceci à cela. Et ce qui m'est pensé urgent, en tout cas embêtant, et en tout cas ce qui me contrarie, moi actuellement, c'est comment penser la taxinomie propre à l'horizontalisme pur. Donc pas la taxinomie verticale, que je comprends très bien, et que j'ai des tonnes de bibliothèques qui me la critiquent, ça il n'y a pas de problème, mais comment penser cette taxinomie nouvelle où il me semble que le maître est devenu anonyme. Et on peut retrouver des analyses de ce type déjà dans le Foucault des années 70, etc., etc. On peut trouver des auteurs, etc. Mais à un certain moment, il y a une espèce de théorie qui commence à nous dire que le pouvoir, il vient d'en bas et qu'il est dispersé, il est incohérent, il est pluriel et sectoriel. C'est pas, on n'est plus dans une figure d'un pouvoir comme pyramide qui vient d'en haut, qui est souverain. On est dans une figure d'un pouvoir qui vient d'en bas, mais le problème, c'est une fois que vous êtes dans une théorie qui théorise que le pouvoir vient d'en bas, il est sectoriel, il est pluriel, il est incohérent, comment on va le battre et comment vous-même, vous ne restez pas, nous-mêmes, on ne reste pas sectoriel, incohérent, pluriel et inoffensif, parce qu'ils sont en train de gagner. On est en train quand même depuis quelques années de récupérer. C'était une théorie qui, me semble, est très, très différente par rapport à ce qui avait dominé pendant longtemps dans la taxinomie, qui était une théorie de l'État comme centre du pouvoir et comme lieu du pouvoir qu'il fallait prendre. C'était plus facile, une fois que vous avez dit « Ah oui, bah, tout se joue là, il faut juste prendre cet espace-là. » Bon, bah, vous avez localisé l'ennemi, savoir ce qu'il faut, bah, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe dans cette espèce de censure par excès? Et il me semble que la question, c'est pas si le libéralisme, c'est plus d'État ou moins d'État. Ça dépend. Il y a des endroits en Grèce où c'est beaucoup moins d'État. Il y a un peu du macronisme où il y a beaucoup plus d'État. La question, c'est pas le libéralisme, il peut faire là où ça l'arrange avec moins d'État, et là, ça l'arrange pas avec plus d'État. La question, c'est que l'État n'est plus pour nous, en tant que lutte, un lieu central, au sens où, si on l'obtient, bah, ça y est, c'est bon, on a gagné. Si la question c'est comment ne pas être éparpillé, mais non plus revenir dans une classification essentialiste, c'est-à-dire non essentialiste, bon, elle a abordé la question de la théorie de Laclau et de l'hégémonie, etc., le signifiant vide. Moi, ça me semble intéressant, quoi ? Que le signifiant vide, c'est quand même une théorie qui vient un petit peu nous donner quelques armes pour penser les choses. Pour autant qu'ils surgissent, il n'y a pas d'essence, c'est un signifiant vide qui va converger, organiser la convergence. Ça remplace d'une certaine manière toute la logique du signifiant maître. L'ancienne taxinomie, elle fonctionne par un signifiant maître. La plus-value, signifiant maître. Il faut analyser, si vous êtes loin, vous êtes là dans la commode en bas, si vous êtes en... Bon, il y a un signifiant maître qui organise. Là, par les signifiants vides, c'est la lutte elle-même qui trouve un signifiant qui converge. Les problèmes commencent, je pense... Parce que cette inclusivité, dans les luttes effectives, pour l'instant, ça ne marche pas. Et ce qu'on a vu dans les mouvements de place, et ce qu'on a vu, on monte des assemblées partout, tout est inclus, chacun monte son petit assemblée, mais la force du collectif, elle ne prend pas. Et le problème qui est apparu déjà depuis la Grèce, et que Finkielkraut n'a mis le point, ici, la Grèce, le problème, c'est qu'il y avait deux places divisées, les fachos, ils étaient là. Les fachos aussi, ils étaient contre le mémorandum, etc. Si vous êtes pour l'inclusivité absolue, ils sont là. Et Finkielkraut, il va arriver sur la place, dit « Mais moi aussi, si vous êtes dans l'inclusivité. » Donc, à la fois, on est dans une espèce de... On ne peut pas faire revenir un critère absolu qui, lui, va ranger à nouveau et qui va préexister de la lutte, mais on voit très bien qu'aucun critère, juste effectivité de la lutte, etc., horizontalisme pur, ça ne marche pas. Et ce que j'aurais voulu faire, mais je me suis auto-censurée, c'est que pour moi, queer, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement essayer de penser de manière située, de manière précaire, et de manière qui, dès qu'il fait, après, il s'auto-censure, quelque chose qui n'est ni vertical, ni horizontal, mais un peu incliné, un peu tordu, un peu queer. Merci.